Matin Première.
C'est l'heure de passer à la revue critique des sorties ciné. C'est avec vous, Hugues Daillet, bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à toutes.
Le blockbuster de la semaine, donc, c'est Tron: Ares, troisième volet d'une saga entamée en 1982 avec le film Tron.
Oui, tout prend du temps, Hollywood. Petit rappel des faits, rapide. Hein, en 1982, il y a un fou d'informatique qui ose un pari complètement improbable, faire un film avec majoritairement des images générées par ordinateur, alors que c'est une époque balbutiante pour les ordinateurs. Mais le concept de Tron, c'était quoi? Eh bien, c'était un concepteur de jeux vidéo, incarné par l'excellent Jeff Bridges, qui avait envie de récupérer la paternité de ces jeux et qui était télétransporté dans ce monde des jeux vidéo. Et donc, les décors étaient entièrement virtuels avec les moyens du bord de l'époque. Et le deuxième épisode, Tron l'héritage, en 2010, eh bien là, c'était le fils de ce concepteur qui tentait de le retrouver dans cet univers virtuel dont il était resté prisonnier. Alors, que raconte ce nouvel épisode? Eh bien, ce nouvel épisode inverse les choses. C'est-à-dire que ce ne sont pas les humains en chair et en os qui vont vers un monde virtuel.
C'est
le monde virtuel qui vient à nous. Et justement, il y a un ingénieur, un boss sans scrupules qui décide d'importer sur Terre des créatures générées par l'intelligence artificielle. Dans à peu près un film sur trois, maintenant, on parle d'intelligence artificielle, on va encore en bouffer beaucoup. Et toujours est-il que cette créature, Ares, est incarnée par Jared Leto, est une sorte de super soldat invincible, duplicable à l'infini, et donc, évidemment, son concepteur essaye de vendre ce concept à des militaires très intéressés. Alors, voilà le point de départ du film. J'ai envie de dire que les thèmes de la lutte entre l'homme et la machine, l'homme et le robot, le robot peut-il être pourvu d'une âme? Ben, quelque part, on retrouve déjà presque ces idées-là dans Frankenstein. Enfin, je veux dire, c'est des idées assez récurrentes, effectivement. Mais là où j'ai envie de pointer ce nouveau blockbuster, c'est dans le travail esthétique. Parce que justement, Tron a toujours travaillé sur des lignes lumineuses, au départ des lignes très géométriques. Et puis ici, justement, il importe des poursuites à moto, des scènes d'action dans la ville, avec des villes traversées, la ville traversée justement par des rayons lumineux. Esthétiquement, il y a un vrai travail de recherche, et je trouve qu'il y a des scènes vraiment de grande beauté sur le plan esthétique. Il faut aussi pointer à l'actif du film, c'était déjà dans le cas dans le premier et le deuxième, un travail étonnant sur la bande originale. La bande originale du premier était signée Wendy Carlos, celle qui avait travaillé sur Orange Mécanique de Kubrick. Le deuxième film, c'était Daft Punk, et ici, c'est Nine Inch Nails, qui sont étroitement associés à la jeunesse du film et qui arrivent avec une musique justement robotique, martelante, mais en même temps assez hypnotisante. Donc, on est avec un blockbuster, j'ai envie de dire, de consommation courante, mais avec quand même un petit supplément d'âme et à la fois des trouvailles esthétiques et des trouvailles musicales. C'est un cinéma qui, a priori, est très très loin de moi, mais voilà, j'avais une certaine curiosité par rapport à cet épisode, et je trouve aussi que le scénario, qui est donc relativement limpide, au moins ne s'emberlificote pas dans des complications inutiles. Voilà,
oui.
Donc ça s'intitule...
J'ai jeté un petit coup d'œil sur la bande-annonce, voilà. J'ai trouvé ça très intense.
Voilà, c'est très intense.
Très rapide, très intense. Un biopic, un de plus, mais sous forme de film d'animation, Mary Anning.
Oui, qui était Mary Anning? Eh bien, Mary Anning, 1799-1847, nous dit le dictionnaire, eh bien, c'était une jeune Anglaise qui a vécu à Lyme Regis, petite ville côtière du Dorset. Petite ville côtière, plage, falaise, qui dit falaise dit fossile, et justement, cette jeune adolescente est passionnée par les fossiles. Mais les fossiles, ben, ça prouve que l'humanité existe depuis très très longtemps, et donc là, elle se met rapidement en conflit avec les autorités religieuses de la ville, qui ne sont pas du tout prêts à considérer cette conception ancienne du monde. Alors, le film montre à la fois, enfin, ce film d'animation à destination des enfants montre à la fois l'émancipation d'une jeune femme qui va devenir une paléontologue tout à fait autodidacte, et aussi évidemment une dimension féministe, parce que une femme qui s'occupe de science dans cette Angleterre de cette époque-là, c'est totalement inconcevable. Je trouve que le film a juste un petit souci, c'est, si vous voulez, c'est un peu le féminisme à la portée des enfants, c'est-à-dire que le message est un peu surligné par rapport au récit. On aurait peut-être aimé un petit peu plus d'innocence, de fiction aussi, de romanesque. Et là, on est dans un message qui est fort, fort surligné pour dire attention, Mary Anning, personnalité importante. Voilà. Mais c'est une tendance aujourd'hui d'une certaine vague de l'animation, c'est de faire de l'animation édifiante, entre guillemets. Voilà. Mm-hmm. Voilà prévenu.
Et puis un dernier film que vous avez pointé, Hugues, les fans de l'actrice Tilda Swinton pourraient être tentés par un film indépendant américain, il s'intitule The End.
Ah, j'étais moi-même très tenté, parce qu'il y a Tilda Swinton, il y a Michael Shannon, il y a George MacKay, générique de formidables acteurs. Le film est extrêmement intriguant, on est dans un long souterrain totalement désert, et au bout de ce souterrain, un appartement bourgeois. Occupé par une famille. Alors on devine assez rapidement que c'est une allégorie sur la fin du monde, d'où le titre du film, et que cette famille est probablement constitue le groupe des rescapés suite à un cataclysme, et chaque membre de la famille a quelque chose à se reprocher parce que visiblement a abandonné un proche en cours de route. Ça pousse la chansonnette de temps en temps parce que c'est une sorte de tragicomédie musicale. C'est totalement opaque et ésotérique, ça dure aimablement 2h30, et je peux vous avouer que malgré ma grande admiration pour le talent de Tilda Swinton, j'aurais aimé lui demander les clés de l'énigme que seul le réalisateur de ce film, Joshua Oppenheimer, doit connaître, mais il les a gardés bien précieux dans son complet veston, et malheureusement, il n'a pas livré les clés de l'énigme au spectateur qui reste assez pantois devant cet objet hautement ésotérique.
Un petit peu trop d'originalité, peut-être.
Et de la longue originalité, ça fait 2h30.
Ça fait, en tout cas, votre revue critique des sorties ciné, et que l'on retrouve en ligne comme chaque mercredi. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.